Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Récemment, nous avons abordé le thème « Dieu est amour ». Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de discussions sur le sujet « Comment le chrétien doit-il aimer à son tour ?»
Notre invité Jean-Marc va nous guider dans nos réflexions.
Un des spécialistes de la loi s'approcha de Jésus. Il lui demanda « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. »
Nous venons d'écouter la lecture de l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 28 à 31. Et nous allons à présent nous pencher sur la question « Comment aimer son prochain ?» Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Yann, bonjour à tous. Alors, comment aimer son prochain ? Dans un premier temps, nous devons, avant de répondre à cette question, nous demander qui est notre prochain.
Et pourquoi Jean-Marc ?
Tout d'abord parce qu'à l'époque de Jésus, c'était une question controversée. Et en deuxième lieu, parce qu'aujourd'hui, elle peut sembler pertinente dans de nombreuses situations. Permettez-moi de m'expliquer.
Je vous en prie.
À l'époque de Jésus, les Juifs savaient très bien qu'ils devaient aimer leur prochain. Toutefois, comme ils trouvaient ce commandement trop pesant, ils avaient décidé que certaines catégories de personnes ne faisaient pas partie de ces prochains et qu'il n'était donc pas nécessaire de les aimer.
C'était très astucieux de leur part. Mais qui donc voulait-il exclure ?
Surtout les étrangers, l'occupant romain notamment, mais aussi des gens d'autres nations ou d'autres tribus. À cela, ils ont ajouté les Juifs qui menaient une vie débridée, des pécheurs notoires, tels que celle vécue par les prostituées et les femmes adultères, les collecteurs d'impôts et les collaborateurs, par exemple. Et nous pouvons tous tomber dans ce piège. Nous pouvons tous nous dire, à propos de ces personnes, « Je ne veux rien avoir à faire avec elles. Je ne pourrai jamais leur montrer de l'amour. »
Oui, c'est bien vrai. Mais Jésus s'est-il prononcé sur ce point ?
Oui. Un jour, un enseignant de la loi lui a demandé « Qui est mon prochain ?» Et Jésus lui a répondu en lui racontant une parabole. Écoutons-la ensemble. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 30 à 37.
Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?»« C'est celui qui a eu pitié de lui, » lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va et agis de même, » lui dit Jésus.
Cette parabole relate l'histoire d'un homme que nous pouvons supposer être juif. Il se trouve dans une situation critique et a désespérément besoin que quelqu'un vienne à son secours. Il a besoin de recevoir l'attention de son prochain, d'être aimé par lui. Or, il s'avère que deux personnes juives, appartenant à sa propre race, issues de sa propre nation, passent auprès de lui. On pourrait penser, voilà des gens de son peuple, ils vont agir envers lui en tant que prochains. Eh bien non, ils ne font rien. Ils ne démontrent en rien qu'ils sont de véritables prochains. Et puis, que se passe-t-il ?
Une autre personne passe, mais celle-ci secourt cet homme qui en a tant besoin. Il s'agit d'un Samaritain. Rappelez-nous qui étaient les Samaritains.
Il est difficile de savoir d'où les Samaritains sont venus. Mais ils habitaient une région vers l'est d'Israël. Ils suivaient la religion juive, avec cependant quelques divergences importantes. Ce qui nous intéresse ici, c'est que les Juifs détestaient et méprisaient les Samaritains. Un Juif n'aurait jamais considéré un Samaritain comme son prochain.
Et pourtant, cette parabole nous enseigne que ce Samaritain a agi en prochain. Il a aimé la personne juive gisant sur le sol comme si elle était son prochain.
Vous avez raison, Yann. Cette parabole devait bouleverser les pensées des Juifs de l'époque de Jésus. Elle montre que notre prochain peut être tout homme et toute femme. Pour aimer une personne, nous ne devons jamais considérer sa race ou sa nationalité, pas plus que sa tribu ou sa religion ou son origine socio-culturelle. Il est évidemment plus facile d'aimer ce qui nous ressemble, mais cette parabole nous rappelle que nous devons être prêts à aimer ceux qui sont différents de nous.
Et c'est ce que déclare Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 31 à 33. « Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière ? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance ? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même ?
Merci Yann pour cette citation que vous venez de citer fort à propos.
Jean-Marc, nous approchons de la fin de notre discussion et j'aimerais que vous nous montriez toute la pertinence de cet enseignement pour aujourd'hui.
Nous vivons tous dans des sociétés où des divisions demeurent, où des préjugés séparent les hommes. Dans les grandes villes d'Europe, une forte immigration s'est mise en place et des gens de divers pays, de diverses races et religions sont appelés à vivre côte à côte. Cette situation peut créer des tensions et des conflits, mais selon Jésus, le chrétien doit être disposé à considérer tous les hommes comme ses prochains, quelle que soit leur origine et leur arrière-plan social ou culturel. Pensons à présent au continent africain. Plusieurs pays y sont affligés par des conflits tribaux et des conflits éclatent parfois de façon très violente. Dans ce contexte, le chrétien doit donc prendre conscience que son prochain n'est pas seulement la personne qui appartient à sa propre tribu, mais aussi celle qui est issue des autres tribus. Enfin, un troisième exemple. Les gens atteints de la maladie du sida sont malheureusement encore victimes de nombreux préjugés et sont souvent méprisés et rejetés. Selon l'enseignement de Jésus, il faut considérer de telles personnes comme notre prochain, dignes de recevoir notre amour et notre attention.
Merci Jean-Marc pour ces exemples. Nous venons donc de nous pencher sur la question « Qui est mon prochain ?» La prochaine fois, nous lui demanderons « Comment manifester de l'amour envers son prochain ?»
Parce que nous venons de parler de l'amour du chrétien, nous voulons à présent méditer sur l'amour de Dieu.
Ainsi, tout au long de cette série, nos méditations bibliques porteront sur les images de l'Ancien Testament, donnant un aperçu de cet amour. Écoutons pour cela les paroles du psaume 23, verset 4. Ensuite, Alain nous apportera quelques réflexions sur ce texte.
L'Éternel est mon berger. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège.
De même que la dernière fois, nous pouvons nous imaginer à la place d'une brebis vivant dans une région aride et montagneuse. Pour trouver des pâturages verts et des sources d'eau, le berger doit la conduire sur des chemins rocailleux. Si le berger n'était pas présent auprès d'elle, la brebis serait craintive. Elle s'égarerait, se perdrait pour mourir lentement de faim et de soif. Elle pourrait tomber dans un précipice, devenir le bon repas d'animaux sauvages tels que les lions et les loups. Cependant, son berger est là. Elle se sent confiante et en sécurité. Selon ce psaume, si l'Éternel est votre berger, vous pouvez vous sentir en sécurité et vivre sans crainte, même confronté à des situations dangereuses. L'image de la vallée où règnent les ténèbres de la mort peut nous faire penser à bien des choses. Aux maladies qui mettent en péril nos vies, aux activités des mauvais esprits, à la menace de violence et à bien d'autres choses encore. Comment ne pas éprouver de la crainte confrontée à de telles circonstances ? Cela semble relever de l'impossible. Et pourtant, le roi David a écrit ce psaume en connaissance de cause. Sa vie fut maintes fois exposée au danger, et cependant, à chaque fois, il a pu s'exclamer « Je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi ». Nous mourrons tous un jour, mais le chrétien demeure avec cette espérance. La mort n'est qu'une porte d'accès sur un avenir meilleur. Si nous avons cette conviction, et si nous nous confions en l'Éternel, notre berger, la paix de Dieu chassera nos peurs et nos inquiétudes. Notre berger, l'Éternel qui nous aime, sait nous rassurer. Il sait apaiser nos cœurs, même dans la pire des circonstances. Le psaume parle du berger muni de son bâton et de sa houlette. Et vous pouvez vous demander ce qu'il représente. En fait, ce sont les outils utilisés par le berger. Et ces outils l'aident à conduire, à protéger et à rassurer ses brebis. Quels sont donc les outils que l'Éternel, notre berger, emploie pour nous conduire, pour nous rassurer, ranimer notre foi et notre espérance? Ils sont nombreux, mais nous pouvons en nommer quelques-uns. La Bible, qui est la parole de Dieu, est parmi les plus importants. Nous pouvons la mémoriser, afin qu'en temps de besoin, ces paroles ressurgissent dans nos cœurs et nous parlent de façon opportune. Les cantiques aussi peuvent nous faire beaucoup de bien. Dieu peut aussi utiliser des amis chrétiens pour nous relever par des paroles de consolation et d'encouragement. L'Éternel nous aime, et il a le pouvoir d'utiliser toute chose et toute personne afin qu'en temps de danger ou de crise, nous puissions être soutenus et que nous puissions poursuivre notre chemin, le cœur empli d'espérance.
Merci Alain. Il est toujours rassurant d'entreprendre de longs voyages avec des personnes que nous connaissons. Surtout si ces personnes sont compétentes et sympathiques. Il en est de même avec l'Éternel. La Bible nous donne cette assurance. Le Seigneur, notre berger, demeurera avec nous tous les jours. Jamais il ne nous abandonnera.
Nous poursuivrons nos deux séries sur l'amour lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. Nous aborderons alors la question « Comment aimer notre prochain ?» En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir, et que Dieu vous bénisse.